Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Depuis mardi matin, notre règne est fini.
Langue de France.
Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM.
En fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont envie, qui ont ce même désir.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel.
Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur l'onde de fronde. Bonsoir, on est avec vous sur FPP 106.3 dans l'émission Langue de fronde jusqu'à 19h. Aujourd'hui en technique, nous avons Théo, qui nous fait un petit signe de la main. Et en plateau, Astrid.
Bonsoir.
Lila.
Bonsoir.
Lola.
Hello.
Et moi, Virginie. Donc, en ce 12 juin, on vous retrouve pour une émission consacrée aux cheveux, à la capillarité dont on hérite et à ce qu'on en fait. On nous a dit d'un air de déconsidération que c'était bien un truc de meuf de faire un sujet sur les cheveux. On aurait voulu répondre cette tirade géniale que Phoebe Waller-Bridge, l'héroïne de la série anglaise Fleabag, répond à son coiffeur. On n'a pas pu s'empêcher de vous la partager, vous excuserez le doublage.
J'ai deux réunions importantes et je ressemble à un crayon.
Ne me rends pas responsable de tes choix. Et les cheveux, c'est pas tout.
Waouh.
Quoi?
Ah, je suis désolée, les cheveux, c'est tout. On aimerait bien que non, comme ça, on pourrait penser à autre chose, mais c'est la vérité. C'est la différence entre une bonne et une mauvaise journée. On est censé penser que c'est symbole de pouvoir, de fertilité. On exploite des gens pour ça. Ça paye tes factures. Les cheveux, c'est crucial, Anthony.
Alors oui, c'est vrai, les cheveux, c'est souvent un sujet qui concerne en premier chef les personnes assignées femmes, et les dénigrer au prétexte que c'est girly, futile, cosmétique, etc., ça invisibilise les dynamiques de pouvoir, d'identification, d'émancipation et de bien-être dont ils sont imprégnés. Et pour cause, les cheveux, c'est social. Ils cristallisent nos appartenances genrées, raciales ou encore socio-économiques. Comme plusieurs autres parties du corps, ils sont soumis à des normes. Ils peuvent être motifs de discrimination, mais tenter de se conformer à la chevelure idéale, que l'on nous vend peut-être, source d'aliénation. Cependant, on hérite d'une certaine capillarité du crâne, c'est vrai. Mais, et c'est là que réside leur ambiguïté, on peut agir sur nos cheveux au jour le jour. Qu'ils soient si malléables, contrairement à d'autres traits physiques, permet de jouer avec ce que l'on est, ce que l'on renvoie. Ça permet de jeter le trouble dans les normes, de retourner le stigmate en choisissant de valoriser ce qui est discrédité. Ça permet de performer des choix et ou des identités en mouvement. Modifier ou ne pas modifier sa coiffure et la nature de ses cheveux peut alors prendre un caractère performatif, autrement dit, ça va impliquer une action, opérer un changement pas seulement de notre apparence, mais aussi de notre identité. La philosophe féministe américaine Judith Butler a étudié ce phénomène de près dans son livre « Ces corps qui comptent » et nous dit en fait qu'agir sur son corps, en l'occurrence sur ses cheveux, peut-être une manière de résister aux normes qui nous oppriment et même devenir le lieu d'une puissance d'agir transformatrice. Je vais laisser la parole à Lola.
En fait, c'est cet élan de transformation-là, ce lien entre l'action et l'identité qui nous a vraiment donné envie de creuser ce sujet et d'en parler avec vous aujourd'hui. On a choisi le témoignage de deux personnes pour qui agir sur ses cheveux ou ceux des autres participe à la formation d'une identité politique. On va d'abord entendre Pauline, une femme noire adoptée par des parents blancs, pour qui la question des cheveux a eu une place centrale dans la formation de son identité, au point d'écrire un manuel sur le sujet. Ensuite, nous entendrons Vic, coiffeur et sociologue du genre et des sexualités, qui a créé Queer Chevelu et qui s'attelle à déconstruire les stéréotypes de genre à coups de ciseaux, pour le citer. Interroger les cheveux comme outil politique permettant de résister aux différentes injonctions sociales, c'est donc le riche et enthousiasmant programme d'aujourd'hui.
Pauline, que vous allez entendre, c'est donc une femme noire adoptée par des parents blancs.
Vu qu'elle a été élevée dans une culture blanche, elle a longtemps eu du mal à se conscientiser comme femme noire. Et ça alors même que dans la rue ou n'importe où d'ailleurs, elle est identifiée comme femme noire et cible de stéréotypes racistes. Donc petit à petit, elle a réussi à renouer avec son identité africaine, et cela notamment en apprenant à s'occuper de ses cheveux crépus. Des connaissances qui malheureusement ne lui avaient pas été transmises par son entourage blanc. Après avoir longtemps bataillé pour savoir comment s'occuper de ses cheveux et quelques expériences pas forcément agréables il y a quelques années, Pauline a décidé d'écrire un manuel destiné aux enfants, aux cheveux frisés, crépus, bouclés et à leurs parents. Ce manuel, il est composé de conseils illustrés sur comment prendre soin de ses cheveux, d'exemples de coiffure, etc. Il ne reste plus qu'à trouver la maison d'édition qui est prête à l'accepter. Donc aujourd'hui, nous, on vous propose d'écouter justement Pauline nous parler de son rapport aux cheveux dans le cadre d'un entretien qu'on a mené avec Lila et Lola il y a quelques semaines. Vous entendrez parfois nos voix, mais aussi la voix d'Anna, femme maghrébine et amie de Lola. Donc ce qui va suivre, c'est une version très écourtée de l'entretien qu'on a pu avoir, qui fait une quinzaine de minutes, mais vous pouvez trouver une version un peu plus longue sur le site de Langue de Fronde, de près de 40 minutes. On se retrouve juste après ça.
Donc oui, je m'appelle Pauline, je suis née en 90, de deux parents en fait camerounais, donc père inconnu et mère qui est décédée quelques jours en fait après ma naissance. Et du coup, dans ce malheur entre guillemets, j'ai eu l'occasion de rencontrer ma famille du coup adoptive, mes deux parents qui en fait travaillaient dans cette région, enfin près de cette ville au Bala, en tant que médecin, notamment mon père en tant que pédiatre. Et du coup, bon, une chose en entraînant une autre, ils ont décidé donc de m'adopter. Et donc, c'est important de dire que je suis donc une femme noire de plus d'une trentaine d'années qui a évolué et qui a grandi dans un milieu et dans une famille blanche, en fait. Et donc, j'ai une fratrie, on est quatre. J'ai deux grands frères et une petite sœur. On a tous aux alentours d'une trentaine d'années, entre 35 et 30 ans. Donc, née au Cameroun. Après, j'ai grandi un petit peu dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Vers mes 17 ans, je suis revenue en France avec ma famille à Poitiers. Puis ensuite, j'ai vécu à Bordeaux. Et puis, je me suis installée à Marseille. Donc là, ça fait cet été, ça fera 6 ans que j'habite à Marseille. Et donc, quand je suis arrivée à Marseille, une des idées qui a émergé, c'était justement d'écrire en fait un manuel pour les enfants, notamment pour les enfants afrodescendants ou racisés, à savoir comment prendre soin de leurs cheveux.
Et à quel moment c'est devenu un sujet important pour toi, les cheveux ?
En fait, ça a toujours été un sujet important dans ma construction. Il y avait quelque chose en fait autour de mes cheveux, et je pense que maintenant je peux le dire, j'en avais pas conscience avant, qui était lié finalement à qui je suis, comment les gens me perçoivent et ce que je représente. Le manuel que j'avais eu l'idée d'écrire, ça faisait partie d'une chose qui s'était cristallisée, c'était le conflit en fait finalement qu'il y avait entre moi et ma mère quand elle s'occupait de mes cheveux. Enfin, c'était pas vraiment un conflit, mais en tout cas, on appelait ça la séance de torture quand même. Parce que du coup, elle se retrouvait, elle, sans avoir de connaissances, à pas trop savoir comment faire pour s'occuper de ses cheveux. Je voyais qu'elle avait vraiment envie de le faire. Enfin, on prenait un temps vraiment spécifique pour moi pour le faire. Mais c'était toujours compliqué parce que j'avais mal. Elle était vraiment désolée en fait de pas savoir comment faire. Donc il y a eu des fois où on m'a envoyée chez le coiffeur, je suis revenue avec le crâne rasé par exemple. Et du coup, on me donnait des surnoms. De garçons, d'ailleurs d'hommes, sportifs, alors que j'étais haute comme trois pommes et que j'avais 5 ans, mais bon. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'était dû au fait qu'elle ne sache pas non plus trop comment faire. Ça, c'est une histoire marquante, je pense, qui a pu plus tard impulser l'idée de ce manuel. Et puis après, il y a eu tous les moments difficiles. Et justement, quand je conscientisais pas forcément que j'étais une femme noire, une des choses qui me rattache toujours à ça, à une partie très importante de mon identité, c'est mes cheveux, et c'est vraiment des univers que je pouvais pas partager finalement avec ma famille. Et puis surtout à l'adolescence, en fait, je voulais absolument, je cherchais en fait à avoir les cheveux lisses. Et en fait, pour dire à quel point j'avais pas connaissance de qui j'étais, parce qu'on habitait en Afrique, et quand je rentrais à Paris et que je voyais des femmes du coup qui avaient des coiffures plus sophistiquées que les femmes que je pouvais être amenée à croiser dans les pays où j'habitais, je pensais en fait que leur perruque ou leur cheveux lisses, c'était leurs vrais cheveux. Et je me disais quelles techniques elles ont employées pour réussir à être aussi belles en fait finalement. Et du coup à 16 ans, après moult conflits avec ma mère, j'ai réussi à être accompagnée par une dame et me faire défriser les cheveux. J'étais trop contente et c'était trop drôle parce que le jour où je me suis fait défriser les cheveux, Donc on n'a jamais vraiment les cheveux défrisés en fait. Enfin ils sont jamais lisses en fait. Enfin ils sont juste abîmés, tout droit. Enfin voilà, il y a aucune. Enfin moi je trouve pas ça très joli maintenant. Et du coup quand je suis sortie chez le coiffeur, j'avais un espèce de brushing horrible d'ailleurs. Et en fait ce même jour, donc j'étais trop contente, je me regardais dans le miroir, je touchais mes cheveux, je me disais ça y est, j'ai atteint le saint graal de la beauté en fait et de la féminité. Et en fait on est allé à la plage et du coup forcément ils ont regonflé en fait mes cheveux. Et quand je suis rentrée chez moi, en fait, la coiffure était complètement changée. Donc après, j'ai fait des défrisages, j'ai essayé d'entretenir tout ça. Et ça demande énormément d'entretien de défriser ses cheveux. En Mauritanie, j'ai vécu en Mauritanie, j'étais déjà adolescente. J'avais des copines africaines, mauritaniennes, noires et maghrébines. Et on a partagé une chose, c'était de se défriser les cheveux, en fait. Au fil du temps, je supportais pas ces produits qui sont extrêmement toxiques. Ça crée, en fait, sur ma peau, sur la peau de mon crâne, des croûtes. Et ça m'abîmait la tête, donc je saignais tout ça pour avoir les cheveux lisses en fait. Et du coup j'ai réussi à me dire un petit peu toute seule que ça en valait pas la peine. Et de là j'ai arrêté en fait les défrisages et je suis rentrée dans une phase où j'ai voulu garder mes cheveux naturels. Donc ça veut dire qu'après bon je peux faire des tresses, porter des perruques, des rajouts, des choses comme ça, mais mes cheveux sont toujours naturels, ils sont très longs, très beaux.
C'est à quel âge du coup que t'as fait ce choix là de ne plus utiliser ces produits et tout ça?
La vingtaine, je pense. Je me rappelle plus de ce qui m'a décidé. Après, j'avais quand même une bande de copines qui étaient toutes afrodescendantes, ce que j'avais pas forcément avant. Et elles, en fait, elles s'assumaient quand même. En fait, il y a des connaissances à avoir pour pouvoir les entretenir, et c'est sûr que si on nous les transmet pas, c'est compliqué. Et c'est aussi comme ça, en fait, que l'idée du livre a émergé, en fait. C'était pour donner aux enfants envie, et puis qu'ils se retrouvent pas en fait au bout d'une certaine période de leur vie démunis en fait face à cette envie peut-être d'être eux-mêmes. Enfin moi ce qui m'avait choqué, mais maintenant on en parle beaucoup plus, c'était vouloir ressembler à des gens qui te ressemblent pas du tout, parce que du coup t'as pas de modèle qui te permette de t'identifier à des personnes qui te ressemblent. Enfin, moi, pendant des années, en fait, je pensais que j'étais quelqu'un d'autre, en fait. C'est pour vous dire à quel point ça peut aller loin. Après, du coup, il y a un bouquin que j'avais acheté, parce que je pense que c'est une question que j'avais depuis longtemps dans ma tête, de Juliette Smeralda, docteur en sociologie. Ça s'appelle « Cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation ». Et en fait, elle parle justement de tout ce qu'on vient de se dire, et surtout de la disparition, en fait, des connaissances, et pourquoi, en fait, des personnes comme moi... Mais enfin, moi, j'ai grandi dans une famille de personnes blanches, mais en fait, il y a plein de personnes aussi racisées qui se retrouvent à pas savoir comment faire ou à renier leurs cheveux. Et en fait, elle explique pourquoi. Je me suis dit, bon, évidemment, je pourrais pas faire quelque chose d'aussi construit qu'elle, parce que c'est son domaine d'expertise, mais je pourrais aller dans son sens en faisant ce petit manuel et en commençant par le début, c'est-à-dire les enfants, en fait.
Et tu demandes quoi comme quand tu rentres chez le coiffeur, enfin comme coiffure ou comme
tresses, des tissages, des poses de perruque, plein de choses.
Parce que ça, bon, ça craint. Moi, je me rends pas compte. Ça représente combien de temps parce...
Ça dépend vraiment des gens. Si je me fais des tresses, je peux les garder entre un mois et cinq mois, mais c'est un budget. Et c'est un budget énorme, les cheveux. Comme ça, à chaque fois que je vais me coiffer, je dépense à peu près entre 60 et 150 euros. Je pourrais y aller une fois par mois. Des fois, je me raisonne et quand j'ai moins d'argent, et je me dis, je fais des coiffures qui vont me coûter moins cher, qui vont durer plus longtemps. Moi, quand j'arrive avec mes cheveux crépus dans un salon de coiffure, ça emmerde tout le monde, en fait. Et ça depuis toujours, quoi.
Même dans un salon de coiffure pas blanc?
J'ai jamais été dans un salon de coiffure pour les personnes blanches.
Ok.
Jamais. Enfin, je me rappelle plus.
Je me retrouve dans ton histoire. Alors pour le coup, c'est différent, mais fille arabe, mm-hmm. de parents algériens, mais maman avec les cheveux lisses, mm-hmm. donc qui n'a pas su coiffer mes cheveux également quand j'étais jeune, qui a grandi dans un village Saint-Tropez, donc
ouais.
Voilà, qu'avec des filles blanches. Mais en fait, je me rends compte que nous, on n'a pas, même pas d'offre en fait possible, et que mm-hmm. la seule possibilité, c'est d'aller dans les coiffeurs blancs. Mm-hmm. Et je me retrouve quand tu disais, moi, je suis un cauchemar. Enfin, quand je rentre chez un coiffeur, ouais. je tremble, je transpire un peu parce que je sais qu'à chaque fois, mm-hmm. soit la meuf, elle va pas savoir régler des mêlées alors que c'est pas certain. Hein.
Ouais, et puis elle va les dénigrer,
elle va les dénigrer. Elle va dire, ah, je coiffe mieux mais les cheveux que je connais, et tu regardes la tête de la fille, elle a les cheveux aussi lisses que toi, enfin, t'es là en mode... Ok, donc tu sais qu'elle va te rater.
Non, mais en plus, tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a plein de personnes blanches qui ont les cheveux bouclés, donc en fait, c'est vraiment pour te tenir
oui,
à l'écart.
Oui.
Les gens, quoi. C'est...
Et tu te sens, quand tu rentres dans un salon de ce type-là, t'as l'impression d'être comme n'importe qui d'autre dans le salon, ou t'as l'impression de, je sais pas, de pas appartenir.
Ça m'a pris des années, en fait, pour me sentir à l'aise. Maintenant, je me sens très à l'aise, je me sens comme tout le monde, en fait. Voilà, je sais que c'est quelque chose voilà, qui manque, voilà, qui est en lien avec qui je suis, donc une femme africaine. Donc non, ça va. Mais par contre, pendant tout un moment de ma vie, oui, j'étais très fermée, je n'osais pas parler, je n'osais pas m'exprimer, je ne me sentais pas à l'aise, j'étais beaucoup dans l'observation, je savais pas trop où me mettre, comment dire les choses...
Alors, moi, je vais te dire un truc dont j'ai un peu honte. C'est toi qui m'as fait réaliser, mais il y a plusieurs années, hein, je suis dans un autre... Qu'il y a beaucoup de femmes noires qui portaient des perruques. Moi, mais ça, je l'avais jamais réalisé.
Mais ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, la perruque, parce que... Il y a énormément de femmes noires qui portent des perruques ou des rajouts, des cheveux artificiels, synthétiques, mais aussi naturels. Et pour les personnes blanches, certaines personnes blanches... la perruque, elle n'a pas du tout la même signification. Quand tu te fais démasquer en fait, avec ta perruque par une personne qui n'a pas la même culture que toi, en fait, tu peux être moqué. Enfin, on se moque de toi parce que voilà, c'est pour se déguiser. Je trouve que c'est hyper humiliant. En fait. Par exemple, moi, je ne porte jamais de perruque au travail parce que je sais que potentiellement, on peut me l'enlever. Et en fait, j'imagine avec effroi la scène où ça pourrait arriver. Et alors qu'en soi... les personnes, en fait, si elles le font, finalement, c'est consciemment ou inconsciemment pour ressembler aux personnes qui vont finalement se moquer d'elles quand elles vont découvrir qu'on porte des cheveux finalement synthétiques. Ou... Après, moi, j'enlèverai jamais ma perruque devant un homme blanc avec... autant de confiance que devant un homme noir, par exemple. Donc il y a quand même quelque chose de très intime, en fait, finalement. Enfin, je le fais pas aussi rapidement que face à un homme noir. Et je le fais peut-être pas de la même manière, tu vois. Je vais peut-être aller dans la salle de bain, fermer la porte, mettre quelque chose sur ma tête. Je vais pas me mettre dans une position... où je vais devoir expliquer des choses, où je vais me sentir mal à l'aise, où je vais avoir honte, ou alors la personne va découvrir quelque chose, tout un pan, tout un univers qu'elle ne connaissait pas. Flemme, quoi.
Et tu dirais que ça représente quoi pour toi? Parce qu'on a eu la discussion tout à l'heure sur le fait qu'effectivement, peut-être que pour les personnes blanches, les perruques, ça représente pas du tout la même chose que pour les personnes noires, parce que pas du tout la même culture du cheveu.
Bah, en fait, les perruques, j'adore les perruques. Genre, j'ai des dizaines et des dizaines de perruques. Et en fait, c'est comme un personnage en fait, que tu te crées. Bah voilà, tu t'identifies à certaines personnes et du coup, tu deviens un petit peu cette personne-là. Je sais pas si t'as vu la série Pose.
Non.
Parce que c'est tout un univers et du coup, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu me dire. Mais en fait, ça me permet aussi d'être cette fameuse femme blanche et finalement d'en rire. Tu vois, si j'ai envie de ressembler... aujourd'hui à telle personne avec ma perruque et demain à une autre, et ben je le fais. Et toi, finalement, en tant que femme blanche, tu ne peux pas changer. C'est grâce à cette série-là, qu'on peut qualifier de queer, qui m'a donné un outil en plus pour me sentir bien avec cette idée-là, par exemple. Et j'ai pris un petit morceau en me disant, c'est pas ridicule de porter ma perruque, c'est juste, j'ai envie de faire partie de votre groupe. Et en plus, je peux changer un peu de personnage quand je veux.
Ouais.
Et c'est trop cool.
Ah oui, moi je voulais. Non, mais la question que je voulais savoir, c'est si t'avais des recommandations de lecture, blog, ce que tu veux. Toi, aujourd'hui, s'il y avait une personne qui savait pas comment s'occuper de ses propres cheveux ou des cheveux de ses enfants, de cheveux crépus, soit s'occuper ou soit comprendre le contexte.
Comprendre, bah du coup, il y a le contexte historique, donc où il y a le bouquin dont je parlais tout à l'heure de Juliette Smeralda. Cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. Après, autour de toutes ces questions-là, il y a le Instagram de Estelle Després, Semblant de rien, ça s'appelle. Ça parle de la blanchité, de toutes ces questions-là. Après, il y a un livre pour enfants, c'est Comme un milliard de papillons noirs, de Laurent Safou et Barbara Brun. Voilà, imagé avec une histoire de papillon pour apprendre à aimer ses cheveux. Puis après, il y a des épisodes de Kif Taras, du podcast de Grace Lee et Rokhaya Diallo, un classique.
Et t'as vu sortir un manuel un peu comme celui que tu voulais faire?
Il y a un manuel qui est sorti, je crois, en 2019. Enfin, et ça a été un peu précurseur pour qu'en France, ça devienne plus courant dans les maisons d'édition.
Trop bien.
Ouais.
Trop cool. Bah, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Trop intéressant.
On est toujours avec vous sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Langue de Fronde consacrée aujourd'hui aux cheveux. Et je vous laisse maintenant pour commencer avec Astrid.
Alors Virginie et moi, on habite à Châteaurouge dans le 18e, dans une rue qui est connue pour être remplie de salons de coiffure afro, et ça donne son identité à toute la rue. Quand on y passe, on entend les femmes qui proposent différentes coiffures sur catalogue. On se fait caresser les pieds par des touffes de cheveux qui volettent sur le sol. Et puis ça sent fort les produits de défrisage. En tant que femme blanche, il faut avouer qu'on passe pas vraiment le pas de ces salons. Et finalement, on vit un peu en parallèle de tout ça. Et moi, j'avoue que quand j'ai entendu cet entretien, ça m'a fait vraiment réaliser à quel point cette frontière physique-là qu'on a de pas rentrer dans ces salons, elle matérialise finalement vraiment l'ignorance énorme des blancs et des blanches par rapport aux cheveux des personnes racisées. Par exemple, Pauline, là, qu'on a entendue, c'est ma cousine, et on a été élevés dans les mêmes cercles, et pour autant, il y a énormément de choses de ce qu'elle a dit que j'ai appris avec cet entretien-là, que j'avais aucune idée avant.
Ouais, c'est clair. Et même d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait le préciser pour les auditeurs qui ne nous voient pas. On est quatre personnes sans cheveux crépus et Théo, à la technique, n'a pas les cheveux crépus non plus. Donc c'est vrai que nous, ça a été aussi un peu cette prise de conscience. Et moi, ça m'a fait aussi me rendre compte que la première fois que j'ai entendu parler des soins spéciaux qu'il faut un peu... En fait, qu'il faut apporter aussi aux cheveux crépus. C'est dans la série This Is Us. Donc, c'est une série américaine qui raconte la vie de triplés. C'est très drama, l'américaine. Et dedans, il y a Kevin, l'un des trois triplés, qui est un grand gars blond, très beau gosse, qui sort avec Zoé, une fille afro-américaine. Et à un moment donné, ils sont dans la voiture et ils partent tous les deux à l'hôtel, il me semble. Et en fait, elle lui dit qu'elle a ramené sa taie d'oreiller en soie. Et lui, il la regarde et vraiment avec dédain, il lui dit « Mais t'es vraiment, en gros, une petite bourgeoise quoi, de ramener ta taie d'oreiller de soie. » Et elle le regarde en mode « Mais vraiment, tu comprends que dalle, en fait. C'est juste que j'ai pas d'autre choix pour pouvoir m'occuper de mes cheveux. » Et j'avais trouvé ça super bien fait. Et même la mise en scène était vraiment pas mal parce que bah, ça montrait la réaction première qu'on pouvait avoir en tant que personne blanche. Et puis ça montrait la réalité de cette ignorance et tous les préjugés qui vont derrière. Et même pour rebondir encore là-dessus, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est Anna, donc en fait, qui est ma pote et qui s'est retrouvée là pour cette interview. Et c'était vraiment chouette. Et vous l'avez entendu à la fin, où elle partage aussi son expérience avec ses propres cheveux frisés. Et elle, sa particularité, c'est qu'en fait, sa mère n'a pas le même type de cheveux qu'elle. Elle est issue de l'immigration algérienne. Et donc, en fait, elle a un éloignement avec sa famille. Donc, elle n'a pas trop de personnes de référence qui pouvaient l'aider autour de ses cheveux. Plus, ben, on a grandi en province, elle nous a outés comme venant de Saint-Tropez. Ça reste un petit village de 6000 habitants. Et ben, en fait, il n'y a pas de coiffeur pour autre chose que des cheveux lisses et blonds. Et il y a vraiment un isolement où il y a peu de personnes avec qui elle peut échanger sur ces sujets, parce qu'il y a peu de personnes concernées. Et donc, en fait, elle m'a toujours partagé qu'elle a dû vraiment apprendre tout sur YouTube. À travers soit des femmes maghrébines qui faisaient des vidéos, soit des meufs brésiliennes qui partageaient un peu les mêmes problématiques. Et en fait, après, c'est elle qui m'a appris à m'occuper de mes cheveux bouclés.
C'est marrant parce qu'en fait, finalement, Pauline, c'est ce qu'elle disait, qu'elle, pour apprendre, on l'a coupé là au montage, mais c'est sur la plus longue version, que Pauline, finalement, pour apprendre à s'occuper de ses cheveux, elle s'est basée non pas sur la vie de ses proches, mais sur des vidéos YouTube. Et que c'est à partir de vidéos YouTube qu'elle a fait son manuel, finalement. Donc, comme quoi.
Oui, c'est marrant aussi parce que ça montre à la fois les expériences finalement assez communes qu'elles peuvent avoir et à la fois la complexité des parcours que ça raconte. Et par rapport au fait d'être adoptée pour Pauline ou le fait d'être plus ou moins isolée pour Anna, c'est intéressant. Et dans tous les cas, je voulais remettre l'accent sur ce qu'elle... ce que dit Pauline aussi, c'est qu'en fait, ça croise différents types d'oppressions qui s'articulent et se renforcent mutuellement. Et qu'en en fait, il y a vraiment une question intersectionnelle là-dedans. Et pour, en l'occurrence, le témoignage de Pauline, je pense que c'est important de dire le mot parce qu'elle nous en a parlé aussi lorsqu'on a discuté. C'est un exemple de misogynie noire. C'est un terme qui qualifie une misogynie spécifique visant les femmes noires. Et il y a toute en fait cette définition et d'autres informations sur la question qu'on peut trouver sur le blog de Mrs. Roots, aka le blog de l'autrice française Laura Nsafou, qui a écrit aussi Comme un million de papillons noirs, qui est un conte pour enfants autour de la question des cheveux crépus que nous a aussi conseillé Pauline.
Et qu'on mettra en référence sur le site de Langue de Fronde.
Moi, il y avait une autre chose, sur laquelle je voulais aussi rebondir, c'était le côté performatif. C'est un peu ce qu'on vous disait en introduction. Le choix des cheveux, c'était le côté malléable, le côté, contrairement à d'autres parties du corps, on peut en faire un peu ce qu'on veut des fois. Et Pauline, elle nous montre bien dans son interview quand elle nous dit... Moi, j'ai envie de mettre une perruque et ça lui fait penser à Pose. Donc, Pose, c'est une série américaine queer qui retrace la vie et la naissance des ballrooms aux États-Unis où les gens vont performer. Donc, les gens, c'est des personnes noires et queer, vont performer des personnes, des personnages. Et c'est un peu une manière de rattraper le pouvoir sur leur propre identité, sur leur propre corps, sur leur propre histoire. Et quand elle dit, Pauline, en mettant une perruque, tu peux devenir un personnage, je trouve ça super fort de montrer à quel point tu peux regagner du contrôle sur toi et à quel point dans ces cheveux-là qui peuvent être finalement un lieu d'oppression, ça devient un moment de résistance et un moment... joyeux en fait de contrôle de soi.
Moi, ce que tu dis, ça me fait penser à l'œuvre d'une artiste ivoirienne qui s'appelle Laetitia Ki, que j'ai découvert parce que je suis pas sur TikTok, mais j'entends parler beaucoup de TikTok. C'est l'artiste qui est la plus suivie dans son pays sur TikTok justement. Et en fait, elle, ce qu'elle fait pour justement reprendre un peu le pouvoir sur ses cheveux et montrer à quel point les cheveux crépus peuvent être un outil de performance, mais qu'elle assume ces cheveux-là. Elle crée des sculptures en fait à partir de ses cheveux, et ensuite elle les filme, elle les met sur notamment les réseaux, et des sculptures féministes ou antiracistes. En tout cas, elle réagit à l'actualité et elle crée des choses en contestation à la colonisation, et pas mal de choses. C'est super intéressant. Et il y a aussi une autre artiste dont l'œuvre, que je trouvais assez intéressante aussi, et qui croise justement les luttes antiracistes et féministes. C'est Muriel Kabilé, alors j'espère que je le prononce bien, qui est surnommée l'Édouard aux mains d'argent parce qu'elle crée justement des coiffures qui sont liées à la culture africaine, caribéenne et occidentale, et où elle va vraiment mettre en valeur les cheveux crépus. Et voilà, donc toutes ces choses-là, c'est reprendre un peu le pouvoir sur ses cheveux, et je trouve ça super intéressant aussi. Et sur tout ça, donc avant de continuer, on va faire une petite pause musique avec une chanson de 2016 interprétée par la chanteuse afro-américaine Solange qui s'appelle Don't Touch My Hair. Don't Touch My Hair, ça veut dire Ne touche pas à mes cheveux. Et cette chanson, elle a été connue notamment dans un mouvement qui reprend le hashtag Don't Touch My Hair et qui accuse la manie qu'ont certaines personnes blanches de toucher les cheveux crépus, frisés, bouclés, comme si c'était un peu des curiosités de la nature. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser un petit peu, bon, y a un jeu en ligne qui s'appelle hairnow.com où le but c'est d'aider le personnage principal à se débarrasser de toutes les personnes qui veulent lui toucher les cheveux. Donc vous pouvez choisir votre coiffure et il y a une petite bande son derrière qui dit regardez comme c'est moelleux. Bref, bon, c'est bien sûr avec beaucoup d'ironie. Donc on vous laisse, je dérive en musique, à tout de suite.
Avant juste de lancer la petite musique, je vais épeler hairnow.com, hairnah.com. On le remettra aussi sur le site. Et voilà, je vous laisse en musique. Don't touch my hair. When it's the feelings I wear. Don't touch my soul. When it's the rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there. When it's the feelings I wear, they don't understand what it means to me. But we chose to go where we meant to go. They don't understand. To go where we meant to know. You know this here is my shit. Roll the ride, I gave it time. But this here is mine. You know this here is my shit. Roll the ride, I gave it time. But this here is mine.
Nous sommes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Langue de Fronde, consacrée toujours aujourd'hui aux cheveux. Donc face à la violence, donc je reprends directement, hein, donc face à la violence qu'on peut vivre dans certains salons de coiffure, certains et certaines professionnels vont proposer des salons différents, alternatifs. Et sur le sujet, vous pouvez écouter en ligne notamment l'épisode du podcast Miroir Miroir de Jennifer Padjemi qui s'appelle Cheveux crépus, une coiffure à soie, qu'on mettra également sur le site de Langue de Fronde, où intervient Aline Tacite, une coiffeuse formatrice qui a cofondé le salon événement Boucle d'Ébène, qui est spécialisée dans les cheveux crépus, frisés, bouclés. Dans cette exploration des salons alternatifs, on a rencontré Vic, qui a décidé de politiser sa pratique de la coiffure à rebours du traitement ultra-genré des salons traditionnels et qui a fondé Queer Chevelu il y a quelques années dans le but de créer un lieu de soins vraiment safe, respectueux des limites des personnes, de leurs doutes et de leurs attentes. On vous laisse maintenant avec sa voix, enregistrée par Lila il y a près d'un mois.
Je m'appelle Vic, j'ai 28 ans. Je vis à Paris depuis 11 ans. Je gère la micro-entreprise Queer Chevelu. Et je coupe les cheveux à prix libre depuis 2017. En fait, à la base, moi, je suis sociologue de formation. Donc, j'étais en master de sociologie. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé des ciseaux chez mes parents. C'est les ciseaux qui sont juste là, en fait. Et je les ai pris. Et j'ai proposé à mes amis de leur faire des coupes de cheveux spontanées, quoi. Et ça a vraiment débuté comme ça, par des petites coupes de cheveux en soirée. De fil en aiguille, j'ai fait de plus en plus de coupes de cheveux, quoi, comme ça. Je faisais plein de taf en même temps. Je me suis dit, ok, pourquoi pas me lancer à plein temps, parce que j'ai plein de demandes, donc J'ai à ce moment-là décidé de me préparer au CAP coiffure. Et depuis, je fais cette activité à plein temps et légalement, j'ai ouvert ma micro-entreprise. Okay. Et voilà.
Et du coup, pourquoi cuir chevelu? Parce qu'on lit sur ton site que cuir chevelu déconstruit les stéréotypes de genre à coups de ciseaux.
J'ai pas de souvenir précis de quand j'ai trouvé le nom un peu génial de cuir chevelu, qui fait référence bien sûr à tous les jeux de mots de coiffeurs qu'on voit habituellement et qui sont un peu marrants, quoi. Mais je trouvais que c'était un bon nom parce que bah, moi-même je suis une personne queer et assez vite ma pratique de la coupe de cheveux intuitive et autodidacte, ça s'est proposé à des personnes qui avaient envie de changer de tête dans un contrôle supérieur à ce qu'on peut avoir en salon de coiffure. C'est-à-dire que dès le master sociaux, mes camarades à qui je coupais les cheveux, bah, c'était beaucoup les meufs à qui j'ai fait des coupes de long à court. Donc des meufs qui avaient eu des cheveux longs toute leur vie et qui avaient envie de gros changements, mais qui arrivaient jamais à obtenir ça en salon de coiffure. Et donc, moi, j'avais aucun problème à oser leur couper les cheveux de long à court. Okay. Et en même temps, il y avait aussi plein des mecs du master qui se faisaient pousser les cheveux et on encourageait à faire ça, etc. Donc, même si dans mon master, c'était pas que des personnes queer, bah, en fait, assez vite, ma pratique, elle était liée finalement à la déconstruction des stéréotypes de genre. Et c'est aussi, moi, ma spécialité de sociologie. Je suis sociologue du genre et de la sexualité et des mouvements sociaux. Donc, pour moi, c'était assez logique de mêler mes connaissances féministes en gender studies à une pratique libre et bienveillante de la coupe de cheveux, quoi. En fait, donc moi, je suis née... Enfin, j'étais assignée meuf. J'ai toujours été garçon manqué. Vraiment, à partir de mes 4 ans, j'ai refusé de porter du rose. J'ai refusé de porter des robes. Voilà, j'étais très en rejet des féminités hégémoniques, quoi. Et donc, j'ai gardé les cheveux longs, un peu par obligation, jusqu'à mes 21 ans. Les cheveux épais et bouclés. Mmh. Et en fait, on m'a toujours dit que c'était un peu l'attribut qui sauvait ma féminité. J'ai commencé à me couper moi-même mes cheveux à partir de mes 19 ans. Et aussi à les laisser un peu plus libres, à laisser les boucles. Parce que toute mon enfance-adolescence, ma sœur et ma mère m'encourageaient à me lisser les cheveux ou à me faire des brushings. Et moi, j'avais pas du tout envie de faire ça. Et donc, ouais, au fur et à mesure, j'ai coupé de plus en plus court. Et à la fin de mon master, j'ai demandé à des amis proches de les couper de long à court en leur disant comment faire. Mmh. Et depuis ce moment-là, de mai 2021, j'ai toujours coupé mes cheveux moi-même. C'est vraiment un truc hyper important pour moi de me couper les cheveux moi-même. Et donc depuis, bah, j'ai tenté un peu toutes les coupes. Ça m'a permis vraiment de me trouver... moi, dans mes diverses identifications, c'est-à-dire que je me suis d'abord identifiée en tant que bi, après en tant que gwyn. Maintenant, je m'identifie en tant que personne non-binaire, à la fois butch, gwyn, et à la fois aussi clairement sur le spectre transmasque. Donc j'ai toutes ces identifications-là, et ma coupe de cheveux, elle est vraiment centrale là-dedans, quoi. Et c'est pour ça aussi que je suis super touchée que les personnes me fassent confiance à leur toucher les cheveux, à leur couper les cheveux, parce que voilà, ça c'est tellement un enjeu important pour moi dans ma vie à moi-même que bah ouais, ça m'honore vraiment que des personnes me laissent faire ça, quoi. Mais les gens ont pas l'habitude qu'on les écoute et qu'on fasse ce qu'ils veulent, quoi. Donc là je repense à une cliente qui a les cheveux très frisés, elle est métisse et elle n'avait jamais trouvé de coiffeur qui accepte toutes ses demandes. Et je lui ai coupé les cheveux un peu de long à court le jour de ses 30 ans. Et à la fin, elle était super émue. Ouais, moi, c'est pour ces moments-là que je fais ce taf, quoi. Je trouve ça ouf. Et je fais des coupes vraiment différentes, enfin vraiment diverses. Évidemment, quand on pense, j'imagine, à une culture queer du cheveu, on peut penser à la culture du cheveu rasé, des différences de texture entre des parties plus longues, des parties plus courtes avec du rasage, des coupes originales, un peu déjantées, etc. Et ça, c'est carrément vrai. Je pense que ça vient d'un désir de se démarquer, de s'affirmer, d'affirmer sa différence. Il y a quand même plein de types de décolo et de coloration qui sont pas très bien vus dans les milieux professionnels, ou qui sont pas bien vus par les familles, etc. Et parfois, ça peut être aussi une volonté d'être visible face aux autres personnes queer, quoi. Ouais, on a envie d'être plus visible dans l'espace public. À la fois, c'est plus dangereux, bien sûr, mais à la fois, ça peut permettre d'être reconnaissable par des personnes dans son université, dans son milieu de travail. Et donc, ça peut permettre de créer des liens, de trouver des amis, des amants... Et puis il y a plein de personnes queer qui font leur décolo et colo elles-mêmes, et donc je pense ça vient comme moi d'une volonté d'être autonome, de choisir quand on le fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et de tout choisir, quoi. Ouais, les personnes veulent se réapproprier leur liberté de faire ce qu'elles veulent de leur corps, et donc vont faire des trucs originaux parce qu'elles peuvent, quoi. Mais la culture queer du cheveu, c'est aussi accepter et prendre soin, par exemple, des cheveux longs. Ça va être majoritairement des meufs femmes, cis ou trans, et qui se sentent souvent un peu illégitimes, en vrai, dans les milieux queer, parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne sont pas assez originales ou pas assez subversives avec leur coupe de cheveux. Ouais, la culture queer du cheveu, c'est avoir envie de faire ce qu'on veut de ses cheveux, et de pas répondre à des stéréotypes de genre ou des rôles genrés attendus de nous. C'est une des choses qui font que les personnes ont envie de venir se faire couper les cheveux chez moi. C'est c'est prix libre, donc il n'y a pas de tarif genré, de fait. C'est ce qui me semble le plus logique, étant donné que moi, j'étais déjà dans des milieux militants autonomes, libertaires, féministes, et donc c'est ce qui se pratiquait le plus, c'est ce que je trouvais le plus juste. Il y a des personnes qui, notamment les meufs, qui n'en peuvent plus de ce tarif genré, de se voir refuser d'utiliser la tondeuse si elles veulent plus court, ou alors de se faire refuser de changer de coupe de long à court, parce que non, quand même, ça fait pas, ça fait mauvais genre, littéralement. Genre, parfois, c'est ce qu'on leur dit aux personnes, c'est quand même hilarant. Ouais. C'est vraiment très, très bizarre à quel point il peut être dur d'avoir les cheveux bleus chez le coiffeur, ou lui dire je veux un mulet, ou je veux me raser la tête et là j'ai les cheveux longs. Comme tu disais, où on te refusait d'utiliser la tondeuse. Ça arrive tout le temps, quoi. Et les personnes pas queer ou qui ont des coupes classiques se rendent pas du tout compte de ce truc là enfin, se disent ah non mais c'est pas possible, on est quand même en 2023 machin. Mais en fait c'est vraiment ouf, quoi. Enfin, je pense qu'il y a au moins peut-être une moitié des salons en France où si t'y vas t'as les cheveux longs et tu demandes une coupe courte avec du rasage, je pense que dans la moitié des cas on te dit non. Enfin, c'est un truc comme on dit un peu en sociaux, d'entrepreneurs de morale, où les coiffeurs, coiffeuses ont été formés pour reproduire des schémas genrés, souvent sont contrôlés par des patrons, patronnes qui veulent absolument que ça reste là-dedans. On en arrive à des situations délirantes, alors que c'est un soin, c'est un service, quoi. C'est un service qui est demandé par les personnes qui vont payer pour ce service. Et après, il y a plein d'autres raisons. C'est plein de personnes queer, notamment, je pense, une moitié des personnes que je vois sont des personnes trans et non binaires. Et on a vachement de mal à juste se faire genrer correctement, se faire respecter pour qui elles sont et tout. Et plein de personnes aussi qui recherchent la coupe sur cheveux secs. Parce que voilà, moi je fais pas de shampoing, je fais que sur cheveux secs. Et donc. Notamment pour les cheveux bouclés, frisés, crépus, c'est pour moi une faute professionnelle de faire sur cheveux mouillés, quoi. Et après, il y a aussi les personnes viennent, se faire couper les cheveux avec moi parce qu'on est dans un cadre assez privilégié, où j'aime recevoir les personnes que un à un, de manière intimiste. Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas des bruits de sèche-cheveux. C'est vraiment juste un moment assez privilégié. Entre moi et la personne, ou entre plus de personnes, parfois j'ai des personnes qui viennent entre groupes d'amis ou en couple, parce qu'il y a des gens qui sont un peu terrifiés, quoi, qui ont des souvenirs vraiment traumatiques chez les coiffeurs, donc qui aiment bien être accompagnés ou qu'on prenne plus de temps aussi, ce que je propose aussi avec des créneaux plus longs pour des coupes qui nécessitent beaucoup de transformation, pour des personnes extrêmement indécises quant à leur coupe. Donc ouais, je pense que c'est tout ça qui fait que les personnes ont envie de venir ici, quoi. Souvent les personnes me demandent, mais comment tu sais si les personnes sont queer et tout qui viennent? Et bah, bien sûr, j'en sais rien. Et c'est un peu un truc important pour moi de demander aucun compte à personne. J'arrive pendant les rendez-vous, je genre pas les personnes, quoi. J'attends que les personnes le fassent elles-mêmes. Même je continue pas à genrer les personnes, sauf si je sens que c'est important pour des personnes transmasques ou transfemmes. Qui vont se genrer, je les genre à mon tour. Et avec les années, j'ai appris que c'était vraiment crucial de demander aucun compte à personne, parce que y a des personnes qui justement n'ont pas une apparence queer entre guillemets. J'ai souvent des trucs de ouf qui se passent, quoi, des personnes qui viennent pendant des années et puis qui au bout d'un moment me font leur coming out trans, et là, ou alors des personnes qui étaient en questionnement et qui avaient besoin justement de pouvoir venir et pas se faire questionner sur leur légitimité, etc. J'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui sont super isolées, donc qui sont des personnes queer ou en questionnement, mais qui savent pas en fait comment rencontrer des autres personnes queer, et qui ont vachement de mal en fait à trouver des moyens de se sentir légitime, de se sentir bien avec elles-mêmes. J'ai des personnes qui viennent et qui par exemple, sont en début de transition et elles n'ont aucune ressource. Enfin, elles ne savent pas à qui s'adresser, elles ne savent pas qu'il y a des collectifs, qu'il y a des assos. Donc, moi, j'essaie de leur donner tout un tas de ressources le plus possible pour qu'elles puissent rencontrer d'autres personnes dans des contextes plus tranquilles, juste de sociabilité, pas forcément aussi d'interaction sexuelle ou de flirt, parce que c'est aussi, ça recoupe un peu les dynamiques de milieu festif, quoi. Mmh. Peut être en fait vachement discriminante pour plein de personnes, et souvent je trouve que ça recoupe des discriminations de classe et de race, où ça va être des personnes qui ont pas les codes, qui ont des handicaps comme moi. Je peux pas cluber en fait, je peux pas danser, rester en club, donc toute cette culture un peu festif des milieux queer, ça peut exclure beaucoup de personnes en fait. Donc voilà, et en fait j'ai plein de personnes qui littéralement recherchent sur Google, quoi. Recherchent sur Google coiffeur queer Paris, quoi. Et donc les personnes me trouvent comme ça en fait. Qu'il y a à la fois des groupes Facebook, à la fois des fils Reddit, des fils Twitter. Souvent quand c'est les personnes les plus isolées, ou sinon c'est par bouche à oreille.
Donc on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, dans l'émission Langue de Fronde, consacrée aujourd'hui aux cheveux. Et nous sommes dans la dernière partie de l'émission déjà. Et je vais laisser la parole à Lola.
Merci. En fait, moi, ce témoignage, il me touche énormément. Et il me fait penser à différents trucs qui me sont arrivés autour de mes cheveux. Notamment, en fait... J'ai toujours eu les cheveux longs, alors je suis une meuf 6. Et à un moment donné, j'ai voulu me couper les cheveux un peu courts. Et en fait, quand je dis à un moment donné, ça a duré peut-être 3 ans, où je me suis dit, je vais peut-être me couper les cheveux courts. Alors court, ça veut dire un carré un peu long, style mi-court, un peu en dessous des oreilles, quoi. Et j'osais pas, et en fait, j'arrêtais pas d'en parler autour de moi, et j'avais... notamment ma mère qui me disait, mais non, faut pas, tu peux pas te couper les cheveux, ils sont trop beaux tes cheveux, faut les garder longs. Il y avait une espèce de pression à garder ses cheveux longs, et pour moi c'était un peu aussi une pression que j'avais ressentie toujours à devoir être une fille, genre une jolie fille, et ça faisait partie du package d'avoir les cheveux longs, les jolis cheveux sur lesquels on me faisait des compliments. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ok, c'est bon, je vais vraiment me les couper. Merci le confinement. Et là, j'ai dit, envoyé un message à ma mère, genre, c'est bon, je sais que je vais me les couper. Et là, elle m'a renvoyé un message que je vais vous lire parce qu'en vrai, c'était inattendu. Hein. Ma mère, c'est plutôt une maman quechua qui travaille sur des gros bateaux, vraiment pas le délire à prendre soin de l'esthétique. Et pourtant, là, elle m'avait envoyé un message dramatique en me disant « Si tu te fais un carré, fais-le long, s'il te plaît. Dans tous les cas, tu pourras toujours te couper 5 cm plus haut. À ton âge, j'ai fait la même chose. J'avais les cheveux à la taille et j'ai tout coupé. » En fait, je suis restée pendant 3 mois avec un bonnet sur la tête. Mais vas-y, de toute façon, ça fait du bien de changer de tête. Mais vas-y, mollo quand même. Je te dis ça parce que moi, je me suis pas reconnue quand je suis sortie de chez le coiffeur. Et j'ai été très, 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 très perturbée. Et 3 mois après, j'ai embarqué sur un bateau. Donc en fait, moi, c'est pas du tout ça qui m'est arrivé, heureusement. Et la coiffeuse, je suis tombée sur une meuf vraiment chouette et qui a grave pris du temps et qui on a fait, je pense, 1h30 de rendez-vous et il y a eu juste 1 heure de soutien psychologique et 30 minutes de coiffure. Et pour moi, ça a été trop important et pour, en fait, me réapproprier ma féminité à ma manière, que ça corresponde à qui je veux être, à ce que je veux être. Et aujourd'hui, je me laisserai plus long, mais c'est surtout l'acte où je me suis dit, ok, en fait, ce truc sacré de la fille aux jolis cheveux, ben en fait, c'est fini. Et ça a eu un impact qui a été bien au-delà des cheveux. Ça a été vraiment sur comment est-ce que je me sens et comment est-ce que je me perçois. Et après, ça m'a permis aussi de me faire une undercut que j'ai dû faire peut-être 4 mois plus tard. Donc l'undercut, c'est vraiment raser le derrière... du crâne en gardant les cheveux longs, donc c'est assez cool parce que si tu te détaches les cheveux, personne ne le voit, et puis si tu t'attaches les cheveux, ça te fait un petit effet arrière rasé, qui est en fait un classique de la coupe queer, qui d'ailleurs un peu se vieillit, mais qui a été pris maintenant par le mulet. Et pour moi, ça a été vraiment une manière d'affirmer et de revendiquer en fait ma bisexualité. Et la bisexualité qui est vraiment une identité qui est souvent super niée. On te dit non, mais t'es sûre, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas plus ça? Mais c'est quoi ton palmarès pour savoir si oui, non? Et en fait, là, j'étais en mode, ok, je veux juste mettre un gros coup de tondeuse. Et c'était un peu ce que dit Vic, hein, une manière aussi d'être perçue par les autres et d'avoir une coupe qui permet de dire hey! En vrai, ça peut peut-être le faire et avoir en face une personne queer. Et donc, ça me permet à la fois de se montrer et à la fois, moi, ça m'a permis vraiment de me sentir beaucoup plus légitime dans qui je suis. Et donc, voilà, je voulais vous partager ça.
Bah merci, Lola.
Ça résonne aussi ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai quand même beaucoup eu les cheveux longs pour faire plaisir à ma mère. Et j'avais aussi cette pression-là de garder les cheveux. Je t'aime mieux avec les cheveux longs, t'es plus belle, etc. Et déjà que moi, j'étais pas fille-fille, c'était un peu le « Ok, je laisse cet attribut-là pour faire plaisir. » Et donc aussi, c'est de changer ça et d'arrêter de faire plaisir et de me dire « Non, en fait, je veux une esthétique et une coupe qui correspond aussi à comment je me sens et qui soit pas fille-fille et qui... aussi soit plus identifiable comme une coupe lesbienne, c'est vrai. Bah, c'était important dans la façon dont je me perçois et dans comment je suis perçue. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important et on le voit bien quand un matin, on n'a pas la coupe de cheveux qu'on veut. Et c'est un nom d'ailleurs, le Bad Hair Day. Et que ça affecte en fait notre humeur. Ça a été montré hein, scientifiquement que c'est pas juste on est de mauvaise humeur, ça nous affecte vraiment dans notre identité, dans notre journée. Et bah, si au quotidien, on a l'impression d'avoir le bad hair day tous les jours, on voit bien que ça peut être une vraie source de violence. Et aussi, je voulais revenir sur le témoignage de Vic plus spécifiquement et dire que au-delà justement de l'undercut, du mulet, etc., il y a vraiment une pratique queer, en fait, qui se définit autrement et que ça va bien au-delà de la coupe de cheveux. C'est à la fois challenger les normes de genre, de sexualité, mais aussi la nature même du service qui est proposé, le temps que tu donnes aussi à la personne, le fait d'avoir un prix libre, de proposer une écoute, un lien social, au-delà des lieux de prédilection d'une partie de la communauté queer, qui sont le lieu festif, par exemple. d'être un relais vers des ressources communautaires. Et ça, je trouvais ça important de revenir dessus. Et Vic, d'ailleurs, nous a même confié vouloir dédier une partie de son temps professionnel à proposer des formations lui-même autour du CARE, tellement c'est important. Donc il y a vraiment une posture qui est adoptée, qui est celle du soin et qui permet à chacun, chacune d'explorer, légitimer, revendiquer son identité en renforçant son appartenance à une communauté. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu le point commun aux deux témoignages qu'on a pu entendre.
Bah, merci à toutes pour vos réactions et pour cette interview que tu nous as ramenée. Merci beaucoup Lila avec Queer Chevelu et Vic. C'est ici que va se terminer notre émission du jour consacrée aux cheveux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé par mail ou sur le site de Langue de Fronde. Et quand même, avant de vous quitter, parce qu'on adore la musique, on va terminer cette émission en musique. Une musique que va vous présenter Astrid avant qu'on se dise au revoir.
Alors, je vous présente la musique. Non, on va écouter une chanson qui s'appelle Another Love de Tom Model. C'est une chanson qui n'est pas ma préférée, mais qui est importante parce qu'elle a été popularisée notamment par des vidéos de femmes iraniennes qui, en fait, coupaient des cheveux sur des vidéos sur les réseaux sociaux. Et qu'il ait publié en protestation contre leur régime suite à la mort d'une femme à cause de la police des mœurs parce qu'elle a mal porté son hijab. Bref, cette chanson-là, du coup, elle a fait le tour du monde avec des images très fortes de femmes qui, politiquement, coupent leurs cheveux pour montrer leur lutte. Somebody hurts you, I wanna fight, but my hands been broken.
Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears have been used all.
Je rappelle donc le site Langue de Fronde, c'est languedefronde.noblogs.org et l'adresse mail languedefronde@riseup.net. So I use my voice, I'll be so fucking rude, but stay always.